en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Maurice Genevoix de l'Académie française, un jeune auteur à redécouvrir, en quatre émissions proposées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Deuxième émission, l'œuvre romanesque de Maurice Genevoix avec Régis Mianet, professeur émérite de l'Université de Nantes, spécialiste de littérature française moderne et contemporaine, et avec, pour la musique, Claude Debussy, sonate pour flûte, alto et harpe. Alors, Rémi posa sa gaule contre un arbre, sa boîte à poissons près de la gaule, et s'assit, les mains croisées sur ses genoux. Il inclina son menton vers ses mains et demeura désormais immobile, regardant la Loire à travers les branches. Il avait un visage très jeune, presque enfantin, encore malgré sa grosse moustache blonde, un visage hâlé de coureur de grève avec, près des narines, quelques taches de son tavelant les joues. Ses yeux, larges ouverts, d'un bleu pâle et mouillé, avaient la transparence et la douceur des eaux crépusculaires. Il regardait la Loire. La beauté du jour finissant remuait son être d'une grande émotion vague. C'était un soir d'octobre, magnifique et tranquille. Quelques branches défeuillées à demi, les deux berges tout de suite lointaines, et la Loire reflétant le ciel, il n'y avait rien que cela, rien que le ciel et les eaux d'ambre vert qui se mêlaient au couchant mauve et gris. Un calme infini s'épandait sur le monde. La brise ne soufflait plus. L'ample rivière coulait sans un frisson, sans une moire. Rémi Desroches, réédité chez Omnibus en 2001, page 47. Rémi Desroches écrit Maurice Genevoix dans « Jeux de glace ». C'est peut-être celui de mes livres qui reflète le mieux, et sans qu'il en soit dit un mot, l'ivresse des retrouvailles entre ma province et moi. La première publication de Rémi Desroches date en effet de 1922. Après le cauchemar de la Première Guerre mondiale, au-delà de ses retrouvailles avec sa province, ce roman n'est-il pas, pour Maurice Genevoix, l'écrit des retrouvailles avec la vie, une reconquête de la vie? Ne peut-on voir dans ce roman le roman fondateur de l'œuvre à venir? Régis Mianet, qu'en pensez-vous?
Oui, alors je pense qu'effectivement que ce roman va mettre dans son centre, dans son cœur, cette présence du fleuve que l'on trouve presque dans la plupart des romans de Maurice Genevoix. Et c'est en même temps, comme vous l'avez suggéré, un moment de découverte du fleuve, de redécouverte du fleuve, puisque Genevoix sort de la guerre et il est peut-être désemparé, et le fleuve justement va lui apporter une sorte de réponse à ses angoisses, à sa
tristesse. D'autant que c'est un peu aussi un retour à l'enfance, C'est son pays, le Val de Loire,
et
il a toujours.
Oui, oui. Alors bien sûr, il faut se rappeler l'enfance qu'il a eue à Châteauneuf-sur-Loire et ses promenades le long des quais, les séances de pêche.
Il a fallu l'académie pour l'arracher à son.
C'est ce qu'il a dit.
À son Val de Loire.
C'est ce qu'il a dit.
Ouais. Sa vie, c'est le Val de Loire.
Effectivement, il y reviendra constamment. Il y aura bien sûr aussi la Sologne qui l'attirera, mais c'est quand même toujours la Loire qui est très proche. Même dans Rabolio, il y a un moment où Rabolio, dans sa fuite, se retrouve devant la grande vallée, devant le grand fleuve.
Mmh. Dans Rémy Desrouches, Genevoix met déjà en place la figure du héros qu'on retrouvera dans beaucoup de ses romans, le héros qui cherche sa liberté mais qui en est empêché, qui va être pris dans un grand filet, pris dans un piège qui se referme sur lui. Pourtant, les héros de Genevoix ne sont pas des naïfs, ils sont intelligents, ils sont conscients. Il cherche un espace de liberté malgré la contingence.
Oui, oui, c'est exact. Il y a en eux des sortes de forces qui les poussent à chercher des solutions du côté de la vie. Et c'est un petit peu le cas de Rémy. Je pense qu'il représente bien une sorte de prototype. C'est un personnage solitaire. C'est un personnage qui est marqué par une grande épreuve. Et là, il a été arraché au fleuve et il vit à Orléans, mais on peut comprendre aussi en filigrane qu'il représente Genevoix qui a été arraché à ses origines, à son enfance par la guerre de façon très 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 brutale.
Mais avant aussi par l'école normale.
Et par l'école normale.
Oui, par les études.
C'est ça, le cours de la vie que l'on est obligé plus ou moins de subir et contre le quel Genevoix ne se révolte pas vraiment, parce qu'il estime que ça fait partie de la vie. Mais il y a tout de même des événements d'une brutalité extraordinaire comme la guerre, bien sûr. Alors Rémy, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution, qui va chercher une solution. Et comme vous l'avez dit, il y a une sorte de force qui va le pousser à retourner vers le fleuve, à retrouver ce sage qui est le père Jude.
Et au fond, il a conscience, Rémy, que sa liberté, sa vie doit être près du fleuve, que sa vie, c'est le fleuve.
Oui.
Et les événements le poussent ailleurs.
Oui.
Hein, c'est ça.
Oui.
Mmh.
Oui, oui. C'est comme si un miroir avait été brisé. Le fleuve, c'est un petit peu le miroir dans lequel il se reflète et dans lequel il y a une espèce de avec lequel il y a une sorte de relation tout à fait d'harmonie, de transparence.
Rémy hésite à quitter son commerce afin de se libérer pour la saison de la pêche, mais il a peur que sa clientèle aille chez les tonneliers concurrents et le père Jude lui conseille ceci. Écoute, Fourier. Ne crois pas que la destinée de l'homme le condamne à soulever jour après jour la même besogne fastidieuse, de plus en plus fastidieuse et bientôt répugnante. Ne t'ai-je point souvent parlé de cette bonne passion qui sauve de l'ennui ceux qui sont dignes d'être sauvés? Capricieuse, chatoyante, adorable, ne t'ai-je point parlé de la papillonne? Va, mon enfant. Laisse les clients se plaindre et cède sans remords à ta papillonne. Rémy Desrouches, édition Omnibus, 2001, page 54. Nous avons ici, Régis Mianet, l'évocation surprenante d'une philosophie utopiste.
Oui, oui. Oui, oui. Alors, ça, c'est aussi un élément, je trouve, qui est très présent dans la plupart des romans de Genevoix. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'évocation d'une sorte d'âge d'or qui est représenté par un personnage, souvent particulier. Et il y a une nostalgie, un désir de retrouver cet âge d'or. Et le père Jude va être être le médiateur, celui qui va faire redécouvrir justement cette
Oui, parce qu'il faut expliquer ce que c'est que cette papillonne, alors, cette passion, la papillonne.
Oui, alors ici c'est une allusion à la pensée d'un penseur du 19e siècle qui était un personnage tout à fait extraordinaire que George Sand admirait beaucoup, Fourier, oui. Bien sûr. Et l'idée de Fourier, c'est qu'il y avait une sorte de grande harmonie universelle et que le monde idéal, c'était un monde où tous les êtres se retrouveraient placés là où ils devraient être en fonction de cette harmonie et en fonction de leur passion dominante. Donc, dans le...
C'est une position assez forte, là.
Oui.
En fait, il dit, en fait, le commerce, c'est bien, mais il y a la liberté, il y a la papillonne,
oui.
il y a les passions.
Et ça fait partie de la sagesse de Maurice Genevoix, oui. Je trouve. Elle est encore riche pour nous d'enseignement. C'est-à-dire ne pas se laisser prendre par les activités professionnelles, les activités que nous impose la vie sociale, et savoir se libérer, donc changer d'activité. Et par exemple, pour un écrivain, il disait, ben voilà, au bout d'un certain temps, ce qu'il faut, c'est aller flâner, peindre, lire, écouter de la musique.
Mais... Même ce Rémy Desroches, il y a un passage où il tombe sur un livre, et je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas des poèmes écrits par son père.
Oui,
Et bon, il est pris par la passion de lecture, ce qui est tout à fait inattendu pour ce tonnelier pêcheur.
Oui.
On le sent dévoré, et c'est à partir de cette lecture qu'il va quitter, enfin, qu'il va quitter finalement le foyer, qu'il va quitter sa femme et son enfant.
Et là, je pense qu'on
pour
voit...
Pour repartir vers la Loire.
Voilà, on voit à quel point d'ailleurs la poésie tient déjà une grande place dans l'esprit de Genevoix pour conduire vers ce monde dans lequel l'homme peut vivre de façon plus harmonieuse.
Oui, d'ailleurs, Genevoix parle de ses romans poétiques. Mais nous y reviendrons, nous allons écouter Debussy. Nous allons aborder maintenant, Régis Mianet, un autre roman qui n'est malheureusement pas réédité, mais qu'on peut lire en bibliothèque, bien sûr. Heureusement, il y a les bibliothèques. Il s'agit des Mains vides. Les Mains vides, éditées en 1928. Le héros de ce roman, lui, n'est pas du tout un homme de la nature. C'est un artiste.
C'est un peintre qui ensuite
Mais
va essayer
va mal.
De se lancer dans l'écriture. Je pense que il est intéressant d'expliquer le titre parce que souvent le titre des œuvres de Genevoix désigne des personnages, et ici on a les mains vides. Or, il y a une citation d'un auteur danois qui est très explicite. Il n'y a personne qui, dans ses rêves, se plaît à avoir les mains vides. Et ça explique assez bien la situation de ce personnage, Cassanière, qui est un peintre, on peut imaginer un peintre qui vit à Montmartre après la Première Guerre mondiale, qui est dégoûté par...
Vlaminck, qui était un ami de Genevoix, n'aurait-il pas servi un peu de modèle? On ne sait pas.
Là, ça me paraît un peu, historiquement, ça me paraît un peu prématuré.
Parce qu'ils ne se connaissaient pas encore,
c'est
peut-être.
Cela, c'est
parce que là, on est dans les années, je pense que c'est 1928.
C'est ça, exactement. Et je crois que... Genevoix s'intéressait déjà beaucoup à la peinture. Ça apparaît très nettement. D'ailleurs, lui-même aimait peindre, aimait dessiner. Hein, il a pratiqué cela en amateur, mais en amateur parfois très très brillant toute sa vie. Et le personnage de Cassanière me paraît intéressant parce que c'est quelqu'un qui essaie de se libérer.
Il fuit
Paris avec Manouche, une jeune femme qui est souvent un modèle pour les peintres, et ils vont sur les bords de la Loire. Il va essayer sur les bords de la Loire de revenir. Alors il le cherche d'une façon un petit peu obscure, de revenir à ce monde, cet âge d'or dont nous parlions, où le fleuve a sa présence.
C'est un personnage extrêmement noir.
Ce qui est curieux dans l'œuvre, et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est une note un peu particulière dans l'œuvre, c'est que Cassanière est quelqu'un qui finalement se échoue dans cette recherche. Il va essayer de trouver auprès du fleuve cette satisfaction. Il va ensuite se trouver très vite mêlé à la foule des villageois, des paysans, et il va se sentir abîmé par...
Le héros des mains vides est mu par la haine, et il me semble que c'est unique dans l'univers de Genevoix. Cette haine, d'ailleurs, n'est pas perceptible d'emblée, elle est sournoise, elle se fait jour petit à petit, ce qui est très intéressant d'ailleurs pour le lecteur.
On voit bien ce mécanisme quand il se trouve en présence de Manouche, cette femme qui va l'accompagner, qui va se donner complètement à lui au début, et il est heureux parce qu'il
trouve... accepte de quitter Paris avec lui. De le suivre
Il est heureux parce qu'elle est, comme il dit, transparente.
Oui.
Et le jour où il imagine qu'elle est plutôt un miroir que
il la croit un peu.
Et à ce moment-là, il commence à se dire, elle me juge.
Voilà, c'est ça.
Et il n'accepte pas d'être jugé.
Oui, parce qu'il
jugé.
Pense qu'elle est un peu naïve, un peu. En fait, elle est beaucoup plus intelligente qu'il n'avait.
Exactement. C'est un personnage très très original et très positif dans le roman. Il y a vraiment un couple là qui est très intéressant.
Très libre aussi, qui est tout à fait étonnant pour ces années 20.
C'est un couple d'artistes, si on veut, mais tout de même, c'est exact. Et il y a une sorte de face-à-face entre les deux personnages, puisque elle est rejetée par son milieu, parce qu'elle a été violée, elle a eu un enfant, et lui, par contre, est un petit peu à l'opposé. Il a fui son milieu volontairement pour aller à Paris, et ils se sont en somme deux solitaires, deux êtres qui ont échappé à leur monde d'origine, et ils vont essayer de se retrouver. Et finalement, lui ne va échouer, puisqu'il va se suicider à la fin. Et elle, par contre, va trouver une sorte d'équilibre. Et lorsqu'il essaiera de la rejeter, eh bien, il va découvrir qu'elle l'a compris, elle l'a jugé. Et c'est elle qui l'emporte, en quelque sorte, dans cette espèce de...
Elle se libère.
Elle se libère complètement. Elle revient à une vie normale et, disons, équilibrée, ou sans illusion, disons, elle va elle aussi participer à la vie sociale.
Et maintenant, il faut que nous parlions du prix Goncourt. Donc on fait un petit retour en arrière. En fait, le prix Goncourt, 1926, et c'est Rabolio. Alors avec Rabolio, nous sommes au cœur de la Sologne, avec encore un héros qui est habité par une passion, l'amour de la liberté, symbolisé par l'amour de la forêt, mais qui finalement tendra lui-même les poignets pour qu'on lui mette les menottes à la fin. C'est un personnage formidable, ce Rabolio.
Ce qui est peut-être frappant, c'est que là encore, on n'a pas toujours remarqué, il y a la présence de la guerre. Rabolio est allé à la guerre.
C'est vrai.
Et souvent, c'est jamais dit de façon très poussée, mais on le découvre cela.
Et peut-être que c'est cette participation à la guerre qui fait aussi qu'il a du mal à se réinsérer.
Voilà.
C'est vrai que c'est une dimension qui est rarement évoquée.
Exactement. Et c'est ce qui augmente son sentiment de révolte. Et alors, à côté de lui, il y a un personnage qui évoque la Sologne. Âge d'or, encore une fois, comme la Loire a peut-être l'âge d'or dans certains romans, et c'est le père Touraille, cet empailleur, le beau-père de Rabolio, alors qui est un personnage assez fantastique, puisqu'il vit dans une maison où l'on voit partout des oiseaux, des animaux qui sont empaillés, mais il détient une sagesse et il parle de la Sologne d'autrefois, à l'époque où il n'y avait pas de chemin de fer, à l'époque où il y avait peu de routes, et en ces temps-là, eh bien, le braconnage était considéré comme une activité presque normale, admise.
D'autant qu'on voit bien que le braconnage, il n'est pas, on n'est pas dans une dans une passion, c'est une passion aussi dévorante, mais on voit tout à fait que s'il ne braconne pas, sa famille meurt de faim.
Exactement, c'est une nécessité.
C'est une nécessité.
C'est dit plusieurs fois dans le livre, oui. Et les gens qui l'affrontent, là encore, on retrouve un peu ce monde de l'après-guerre qui était un monde
pauvre.
Des affaires.
Mais avec la pauvreté d'un côté.
Et puis de l'autre côté.
Oui, parce qu'il y a toujours les gros propriétaires.
Et voilà,
en fait,
ces gros propriétaires qui s'entourent de gardes, exactement, les Saint-Hubert qui agissent d'une façon extrêmement
brutale. Alors les Saint-Hubert, qu'est-ce que c'est les Saint-Hubert?
Eh bien, c'est une catégorie de...
On connaît les chiens, les Saint-Hubert, mais...
C'est une catégorie de gardes qui prêtaient donc un serment et qui avaient des pouvoirs beaucoup plus étendus que de simples gardes-chasse.
Mais qui étaient au service de l'État ou au service d'une personne privée?
Mais en principe, ils sont au service de l'État. Mais là, on voit bien dans le roman qu'ils défendent les intérêts des grands propriétaires qui pourchassent le braconnage. Alors, il y a un braconnage presque industriel qui est, si on veut, vraiment frauduleux. Mais à côté de cela, Rabolio, lui, c'est celui qui pratique le braconnage pour nourrir sa famille. Et je pense que cet élément social est bien net dans le roman, et il faut y prêter attention.
Mais c'est toujours en filigrane, comme toujours chez Genevoix.
Oui, c'est jamais engagé.
Oui.
Mais il y a une peinture quand même dont on tire très vite des enseignements.
Oui. Avec Rabolio, nous sommes au cœur de la problématique de Genevoix, d'ailleurs, avec ce héros aux prises avec les problèmes fondamentaux, les problèmes existentiels, qui travaille le roman par couple d'opposition, la vie, la mort, la dignité, l'humiliation, la liberté ou la privation de liberté, la prison, la solitude ou la société.
Oui. Alors, c'est peut-être un des romans où on va encore plus profondément dans une sorte de symbiose entre l'homme et la nature.
Oui.
Et Rabolio vit d'une façon presque animale. Il sent la nature, il sent quelles sont les réactions des animaux qui sont autour de lui. Et c'est ce qui lui permet d'être si habile comme braconneur. Braconnier, pardon.
Oui. Oui, mais alors on oublie un peu les femmes.
Oui, alors il y a des personnages
alors,
féminins.
Oui, dans Rémy Desroches, bien sûr dans Les Mains Vides, dans Rabolio, il y a toujours le couple avec des femmes qui ne sont pas du tout des Emma Bovary, qui sont des femmes aussi, là encore, sont des personnages intelligents, en même temps aimantes, patientes, mais qui ont une capacité, quand l'homme est emporté par une passion, qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire peut-être pour la famille, elle prend en charge la femme au lieu d'être écrasée. Même là, avec Sandrine, la femme de Rabolio, qui est une femme qui est décrite, dès qu'elle voit bon, Rabolio, elle fond, quoi, c'est son homme. Hein, il y a un côté très, très, très simple comme ça dans cette relation amoureuse, mais en même temps, on apprend que Rabolio étant prisonnier en quelque sorte de la forêt, eh bien elle va travailler. Ce sont toujours des femmes aimantes, mais très fortes et pas
tout à fait
pas mièvres, pas intelligentes dans leur amour, je dirais.
C'est vrai. Il y a une chose qui me paraît frappante quand on regarde les relations hommes-femmes dans ces romans, c'est que là encore, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, la relation sensuelle est très importante entre les personnages. Ça se voit dans
là
les mains
aussi,
vides, ça se
voit dans Rabolio. Jeune voix est très libre là aussi.
Il y a un langage qui est très proche de celui qu'on peut trouver dans des romans contemporains. C'est avec une certaine pudeur, si l'on veut, mais quand même, les choses sont très bien décrites et il y a une sensualité qui est très, très, très nette. Et ces femmes, comme vous l'avez dit justement, sont très, très intéressantes parce que Sandrine est un personnage qui se révèle. Souvent, au long de l'histoire, on voit ce personnage se révéler. Et alors, dans le cas de Sandrine, il y a un balancement, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que d'un côté, cette femme va représenter en somme le bon sens.
Oui.
Elle va essayer de ramener le personnage dans une voie qui va lui éviter toutes sortes de déboires. Et puis de l'autre côté, il y a cette sensibilité, cet amour, cet attachement à un homme qui n'exclut pas la lucidité.
Oui. C'est ça qui est très intéressant.
Et ça, c'est très frappant. Oui, oui. Même dans le cas de Sandrine.
Et qui est très moderne, finalement.
Oui, dans le cas de Sandrine, c'est très net. À la fin, Rabolio, d'ailleurs, Sandrine joue un rôle central, puisqu'il a besoin de la revoir.
On retrouve d'ailleurs ce personnage de ce couple, cette entité, dans La framboise et belle humeur.
Oui.
Hein,
oui.
Un très beau roman aussi.
Qu'il
a écrit non pas au Canada, mais enfin sur le Canada.
Oui.
Un bruit léger lui fit tourner la tête. Dans l'entrebâillement de la porte, une silhouette venait de s'encadrer, longue et souple. Une voix traînante l'interpellait. « Hello, Nazaire, voilà une luck, je te cherchais. » Le garçon qui s'avançait vers lui pouvait avoir 28 ans. Une ceinture de cuir torsadé serrait son pantalon sur une taille mince, un ventre plat. Un pullover très ajusté moulait étroitement sa poitrine. Les pointes de son col de chemise débordaient, roses, sur la laine vert sombre. Il portait une casquette à coiffe ronde, à longue visière relevée sur son front. Il tendit une main sèche, fine, en souriant de tout son visage glabre. Sa pâleur faisait paraître plus brillant encore et plus noir ses petits yeux instables, presque sans cils. Il les cligna vers la galerie avec un air de gouailleuse bravade. « Je n'étais pas invité, certain, mais on peut bien entrer en voisin, regarder les pictures du curé. Viens t'asseoir dehors, Nazaire, j'ai une bonne place. » La grande bouche de Nazaire s'ouvrit avec un rire silencieux. Lui aussi coula vers l'extérieur un clin d'œil plein de malice. Il prit la main tendue et dit avec une joie gamine, une chaleur d'amitié presque tendre, « Je pensais à toi, Roméo. » Donc, c'est dans « La framboise et belle humeur » de Maurice Genevoix, dans une ancienne édition. Les auditeurs me pardonneront. Je pense que c'est aux éditions du Seuil, mais je n'affirme rien. Alors là, nous sommes passés un peu brutalement de Rabolio à la framboise et belle humeur, mais parce que c'est pour venir à un thème qui est quand même très présent dans l'œuvre de Genevoix, c'est avec les amitiés masculines, en fait, qu'on trouve, oui, déjà... dans ses carnets de guerre aussi.
Oui. Mm-hmm. Je pense que si on regarde attentivement les ceux de 14, il y a des pages multiples autour de quelques amis, et parmi eux, il y en a un qui émerge tout à fait, qui est Porchon.
Mm-hmm. Le compagnon. Il exerce une séduction.
Ah, hein. Tout à fait. Il y a une sorte de on peut dire de sentiments très fraternels, très poussés. Il y a une sorte de compréhension. On pense un peu ici à Montaigne et la Boétie, n'est-ce pas?
Oui.
Ces amitiés, parce que c'était lui, parce que c'était moi, qu'on n'explique pas, dans lequel il n'y a pas apparemment à première vue de rapport sensuel immédiat, mais il y a cette espèce de lien profond. Genevoix, bon, a été l'homme des qui a fréquenté la Cagne, qui à l'école normale a eu beaucoup de camarades masculins. Et ensuite, il y a eu la guerre qui a favorisé ce genre de...
Il avait un frère, déjà.
Pas
de sœur. Il était ayant perdu sa mère aussi.
Je pense que... Bon, il y a là des éléments affectifs. Je pense. Et c'est il y a quelques amitiés comme cela qui sont un petit peu exceptionnelles, qui viennent un peu transformer la vie des personnages, oui.
Oui. Alors, bon, c'était pour évoquer cette thématique, mais il faut qu'on passe maintenant à ce très beau roman. Enfin, moi, j'ai une petite préférence. Enfin,
oui.
Bon, mais beaucoup de choses sont très belles, mais pour La dernière Arde, qui est un beau roman quand même.
Oui, alors c'est une grande réussite par rapport à Rabolio. On voit jusqu'où va Genevoix, parce que dans Rabolio on a un homme qui se rapproche, qui entre en intimité avec le monde naturel, avec le monde animal.
Oui,
ça part de l'homme.
Voilà.
Tandis que là, voilà. on part de l'animal.
C'est le point de vue de l'animal. Si
et
on
ça,
peut dire.
Et ça
voilà.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Ah oui.
On est dans la forêt.
Exactement. Oui, oui.
Comme on voyait avec. Alors, on sentait avec. Dans la peau du cerf, le grand rouge. Hein. Alors, donc, on peut dire que le personnage principal, en fait, c'est un grand cerf.
Et sans,
enfin,
sans
qui...
Oui, c'est le...
Le rouge,
le rouge. Son destin est un petit peu inscrit, puisque au début, il est découvert par l'affûté, le veneur qui, plus tard, va le pourchasser jusqu'à la mort. Mmh. Et c'est comme si, déjà, à l'avance, il était un petit peu choisi pour subir cette sorte...
Mais il est choisi parce qu'il est très beau, parce qu'il est...
Il a une séduction particulière. Oui.
En fait, le veneur le repère alors qu'il est enfant.
Oui. Et il va y avoir une relation tout à fait étrange entre cet animal et l'homme, puisque en fait il y a une sorte d'identification. L'homme va le protéger jusqu'au moment où il sera un cerf adulte que l'on peut vraiment pourchasser. Enfin, lorsqu'il sera en plein épanouissement. Mais l'homme se retrouve en lui puisque l'affûté pense que découvre que lorsqu'il aura tué ce cerf, c'est un petit peu l'univers dans lequel il vit, l'univers dans lequel il est heureux, qu'il est en train de détruire, et c'est en même temps sa propre mort qu'il est en train de commettre.
Maurice Genevoix, La dernière harde, édition Omnibus, page 483. Toute la harde, les flancs alignés, passait en cible entre les hêtres. Les hommes, debout, à toucher la ligne des banderoles, épaulaient et lâchaient leurs coups. Des chevrotines ronflaient comme des guêpes, ricochaient avec des miaulements contre un caillou, un nœud de bois. Une femelle encore se débattait et ruait, couchée, la joue appuyée sur la terre et s'y frottant d'un mouvement régulier, une caresse étrange et rude qui endormit et calma un peu les affres de son agonie. Le rouge, pas une seconde, ne s'était détaché de sa mère. Il courait sans fatigue, les jambes souples, mais stupéfiées, le cœur en désarroi. Il ne démêlait rien dans les féroces rumeurs parmi lesquelles tournait sa course machinale. Même les coups de fusil ne le faisaient plus tressaillir. Il allait, anxieux seulement de ne point quitter sa mère, de retrouver à chaque foulée la chaleur de son large flanc. Et tout à coup, alors qu'ils franchissaient ensemble un fossé près de la lisière, il avait senti contre lui un vide glacial extraordinairement profond qui le suivait dans son élan. Aussitôt, il s'était arrêté, désemparé, déjà orphelin, cherchant des yeux sa mère disparue. Donc, c'est un passage très émouvant, on peut dire. Hein,
oui.
Et finalement, déjà, le mot orphelin, et prononcé.
C'est cela. L'animal va devoir brutalement s'adapter à la vie seul, sans protection. Alors il y a le vieux cerf qui va en quelque sorte l'accompagner, enfin le suivre pendant quelques temps, mais il va très vite le tenir à l'écart, et le rouge devra apprendre par lui-même tous les dangers, tous les secrets de cette forêt. Et Genevoix a des paroles assez extraordinaires dans le livre, puisqu'il dit que très vite il apprend presque tout sur la forêt, alors qu'un homme a besoin de beaucoup d'années pour comprendre un peu la vie, le monde. Là, au contraire, et l'essentiel, il l'a compris, et il sait comment faire pour essayer d'échapper à la mort le plus longtemps
c'est
possible.
C'est ça, en fait, tout être vivant, hommes ou bêtes, ont à lutter en fait pour leur survie, certes, mais au-delà, pour une vie digne et ample. Et à ce niveau-là, en fait, Genevoix met à égalité les bêtes et les hommes.
Ah,
en
oui.
fait,
les... Ah, oui. Oui. Les personnages masculins, pour la plupart, ne sont d'ailleurs pas très plaisants dans le, si on regarde bien dans le livre. À part l'affûté, qui est un personnage un peu plus complexe que les autres. Les hommes sont assez indifférents à ce monde animal, et dans leur comportement, ils sont...
Curieusement,
brutaux.
La complexité, elle est du côté des animaux, en fait.
La complexité, ouais. la subtilité côté, ouais, et du côté des animaux.
C'est ce que comprend la futée. C'est pour ça qu'il s'intéresse au rouge, en fait.
Oui, ouais, ouais. Oui, oui.
Quant à la dignité, Maurice Genevoix ne donne pas la suprématie aux humains.
Non,
et justement, il nous montre là un animal. C'est comme s'il était presque dans une compréhension de la mort.
Il y a une attitude par rapport justement à la chasse, je trouve, dans le livre. Genevoix présente les différentes sortes de chasse. Il y a les rabatteurs, la chasse avec les rabatteurs. Alors là, c'est un véritable massacre, il le montre bien. Il y a le tueur, celui qu'il appelle le tueur, qui est un personnage horrible, qui vraiment savoure le fait de tuer, de sentir la vie qui s'éteint, qui se trempe presque dans ce sang, qui se vautre presque dans ce sang, qui orne sa maison de trophées d'animaux, qui est une sorte de fou sanguinaire.
Qui s'oppose à la futaie. La futaie, en fait, instaure une relation.
Oui, mais alors ce qui est évoqué, alors ce qui est parfois sert à justifier la chasse, c'est la chasse à court, où il y a un rituel très très ancien qui n'est pas sans une certaine beauté, qui a quelque chose.
Oui, comme la corrida.
La façon dont c'est présenté dans le livre, eh bien on s'aperçoit que finalement c'est un peu indigne des hommes de pratiquer même cette forme de chasse. Et je crois que la lecture du livre vraiment
est très claire là-dessus,
est
parce
très
qu'en
claire
fait,
sur
ça
ce plan.
Ça s'achève sur une chose extrêmement étonnante d'ailleurs, sur les biches veuves. En fait, on a tué tous les cerfs.
Oui. Oui.
Et donc, c'est une forêt morte.
Et c'est la forêt morte.
Les biches sont veuves, et il emploie ce terme veuve pour les biches. Et donc, c'est l'homme qui a
responsable
de cet état de choses.
Et qui vient de détruire cette espèce de...
Malgré les règles de la chasse à court.
Oui, le paradis vers lequel il devrait au contraire entrer avec beaucoup de respect et dans lequel il devrait faire des découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dans plusieurs romans de Genevoix évoquent ces forêts, la forêt perdue et d'autres textes.
Oui, il a parlé de ses romans poétiques. Je voudrais lire encore un court extrait. Donc, en fait, ils se sont déjà rencontrés, effectivement, la futaie et le rouge. Donc, il le reconnaît, il se souvient de ce faon qu'il avait déjà repéré. Il pensait à un faon dans la sombre forêt d'été, à un petit faon rouge qu'il avait entrevu sous les feuilles un dimanche, qu'il allait devant lui dans le fourré pour son plaisir. Il avait emmené Ronflot, son limier, son vieux compagnon, un Ronflot libre comme lui, délivré de la botte et du trait. Car il est bon que dans toute vie, une heure brille de temps à autre qui vous laisse oublier, homme ou chien, la livrée ou le collier, où l'on aille devant soi sous les arbres d'une forêt sans nom, une grande forêt sauvage avec ses broussailles et ses bêtes, ces mares perdues où les sangliers viennent se vautrer en grognant, ces chambres de feuillage où les mères biches allaitent leur faim. C'est très beau.
Oui, magnifique.
Et donc,
tout le roman est, de ce point de vue-là, est absolument magnifique. Quand
donc même les hommes et les bêtes ont droit à ces instants de liberté.
Il y a une sorte de rythme dans le livre, parce que le livre est fait de sensations ressenties par les animaux. Et alors, c'est constamment des découvertes de toutes sortes, des odeurs, des visions. Il y a un rythme parfois qui est très calme lorsque la forêt est au repos et lorsque les bêtes enfin connaissent un peu la tranquillité.
Et nous, on y est avec elles.
Et on y est avec elles, parce qu'on ressent tout cela. Et puis alors, souvent, c'est au contraire les bêtes qui sont aux aguets, qui surveillent, qui se sauvent, qui essaient de trouver des ruses pour échapper aux chasseurs, car elles sont quand même...
Elles sont intelligentes.
Elles sont assez intelligentes. Elles luttent jusqu'au bout. On les voit lutter jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'héroïque, mais un peu désespéré. Et en même temps, très digne aussi. Très digne dans la mort de ces animaux. La mort du rouge est évoquée d'une façon extraordinaire. Il y a une beauté, une grandeur dans sa mort qui est tout à fait étonnante.
En fait, c'est une œuvre tout à fait foisonnante.
C'est peut-être le chef-d'œuvre.
Oui. Mais toute l'œuvre de Genevoix, en fait, lire l'œuvre de Maurice Genevoix, c'est comme partir pour une longue balade, le nez au vent, dans un pays qu'on aurait quitté il y a longtemps, mais qui nous attendait et qui nous accueille. On l'avait oublié et l'on s'étonne de le voir si proche. Et donc, je souhaite à tout le monde d'entrer dans cette œuvre. Comme nous n'avons pas abordé, évidemment, tous les personnages, tous les thèmes, c'est trop foisonnant. Et donc, il faut lire Maurice Genevoix. Donc, on peut lire dans les trois volumes des rééditions chez Omnibus. Donc, il y a ceux de 14, dont nous avons parlé dans notre première émission. Il y a Romans et récits de la Loire, dont nous avons parlé aujourd'hui. Et puis, il y a le troisième gros volume qui s'appelle 30 000 jours. Donc, ces trois volumes sont aux éditions Omnibus. Ils ne comprennent pas la totalité de l'œuvre, mais on peut faire un beau voyage avec ces trois volumes. On peut regretter que Les Mains Vides ne soient pas là-dedans. Monsieur Régis Mianet, merci. Le temps a passé très vite. Il nous reste encore beaucoup de choses à dire sur l'œuvre de Maurice Genevoix. Il nous reste encore deux émissions et la prochaine sera spécifique sur les bestiaires avec Madame Ferry comme invitée. Régis Mianet, vous avez vous-même édité un livre qui s'appelle « Le Berry insolite » parce que vous êtes... spécialiste, on peut dire, enfin vous vous êtes intéressé en tout cas aux écrivains de la Loire, oui. Donc Georges Sand, Maurice Genevoix, Alain Fournier et quelques autres. Donc Le Berry insolite de Régis Mianet aux éditions CLD à Tours. C'est un regard insolite et scientifique sur le patrimoine. Vous avez également édité les œuvres du poète Maurice Rollinat, oui. N'est-ce pas ? En deux volumes aux éditions Mina.
Auteur de poésie sur les animaux, justement,
oui.
Qui est proche de Genevoix de ce point de vue-là.
Donc ça, c'est aux éditions Minard, n'est-ce pas ?
Lettres modernes.
Lettres modernes, voilà. Donc je souhaite à tous nos auditeurs une très bonne lecture et de Genevoix et de Régis Mianet. Merci beaucoup. À bientôt donc pour la suite de notre voyage dans l'œuvre complexe de Maurice Genevoix. Cette émission a été réalisée par Lucien Penaud.